Voici François Paquette.
François, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même.
Ça va bien. As-tu déjà dirigé une équipe d'hockey, François?
Dirigé, non.
Dommage, parce que si moindrement tu avais eu un ou deux mois d'expérience au niveau Atom, Pee-wee ou Bantam, j'aurais suggéré que tu envoies ton CV à M. Katz, qui est propriétaire des Oilers, avec son état-major, avec M. McTavish, M. Lowe, M. Nicholson, M. Gretzky, M. Sciarelli. Tous ces gens-là auraient pu considérer ton CV pour devenir entraîneur-chef des Oilers.
J'ai arbitré longtemps, mais j'ai pas coaché. Je vais te dire que... Puis t'es probablement comme moi aussi, Dan. T'es pas tombé en bas de ta chaise quand t'as vu que Todd McLellan était congédié. Je pense que tout le monde s'est dit ça s'en venait. On espérait du côté d'Edmonton après la victoire contre Montréal la semaine passée que les choses allaient peut-être se replacer. Ça n'a pas été le cas. Puis on a quand même démontré de l'émotion en fin de semaine contre les Flames, mais on a laissé partir une avance. On n'a pas joué un gros match contre Vegas. Puis on sentait que ça s'en venait.
Oui. Mais jusque-là, tout est correct.
Oui, c'est ça.
Je suis pas tombé en bas de ma chaise encore.
Mais c'est ça. Puis là, ça arrive. Puis là, tu dis, justement, puis les jeunes nous voient venir en disant, qui c'est qui s'en vient là? Puis surtout qu'il y a une liste de candidats quand même qui est intéressante en pensant tout de suite à Joël Quenneville, à Alain Vigneault, puis les gars qui sont disponibles, quelques bons jeunes entraîneurs. Et là, quand on voit le nom apparaître de Ken Hitchcock, tu te dis, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En plus que l'an passé, quand il a pris sa retraite, on s'est dit, c'est fini les tests à la Ken Hitchcock. Je veux rien enlever à Ken Hitchcock dans le sens où il a eu une très, très belle carrière. Puis c'est un gars qui a gagné une Coupe Stanley. C'est un gars qui a changé sa façon de faire avec les années parce que c'était un gars qui était très, très dur quand il était dans le junior puis dans ses premières années dans la Ligue nationale. Sauf que, Dan, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est qu'on a dit il est là pour finir l'année et ensuite on va réévaluer le dossier.
Ça, c'est la mince consolation de la journée.
Bien, carrément, parce que, mais écoute, à ce point-là, je suis beaucoup plus en accord avec la décision. Tu sais, il y a un petit côté émotif dans le sens où Ken Hitchcock est originaire d'Edmonton.
Exact.
C'est un des meilleurs de l'histoire au niveau des victoires.
Oui.
C'est un gars qui est très bon pour implanter un plan de jeu, un système de jeu qui est pas toujours excitant, mais qui pourrait être très efficace. Et puis, c'est un gars qui a déjà fait ce travail-là d'arriver en plein cœur de saison pour essayer d'enlever l'eau qu'il y a dans la barque pour le remettre sur le bon chemin. Fait que, tu sais, quand on m'a dit que c'était uniquement pour compléter l'année, j'ai dit, on veut peut-être au moins sauver notre saison, mais c'est un défi qui est de taille, Dan. Il faut être honnête que tu as beau avoir le meilleur joueur de la planète. Quand je regardais les statistiques, puis tu dis, évidemment, McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, tu peux pas leur reprocher grand-chose. Après ces trois gars-là, t'as pas un seul joueur qui a 10 points dans la formation. T'as une défensive qui est assez lamentable. Et
oui.
T'as, j'allais dire, deux gardiens de but. Je pense que Cam Talbot, on est tous en train de se rendre compte depuis un an ou deux qu'il peut pas être un numéro un. Puis t'as le grand Koskinen qui est arrivé, le gardien de but qui était dans la KHL,
oui,
qui a quand même bien fait jusqu'ici. Mais on est très, très, très fragile devant le filet. Donc, tu sais, est-ce qu'un système de jeu défensif avec le meilleur joueur de la planète peut avoir un certain succès, on verra. Mais je peux comprendre pourquoi on le fait, Dan. Mais là, on va te dire une chose, puis je pense que bien les gens vont être d'accord avec nous, c'est que Peter Chiarelli, là, il vit sur du temps emprunté. Là.
Oui.
C'est vraiment,
oui,
vraiment le prochain à partir.
S'il manque les séries, ils n'auront
pas de succès.
S'il manque les séries, ils débarquent, on s'entend. François, les plus jeunes, à l'écoute de mon émission, se souviennent pas qu'il y a déjà eu une patinoire sur la rivière Saint-Charles.
Okay.
Sauf que ça a déjà patiné sur la rivière Saint-Charles. Puis, je regardais jouer les Oilers samedi et dimanche contre les Flames, un match émotif, la plus grande rivalité de la Ligue. Et, parenthèse, j'ai été encore une fois très impressionné par la persévérance, mais aussi par l'intelligence hockey et la gestion des émotions de Mathieu Tkachuk. Ce jeune-là m'impressionne sincèrement chez les Flames. Fin de la parenthèse. Je reviens à ma rivière Saint-Charles. Les Oilers d'Edmonton, François, samedi et dimanche, quand je les regardais jouer, il avait l'air d'une équipe qui joue à sa rivière Saint-Charles.
Oui, puis je suis pas en désaccord avec toi parce que c'est un club qui a l'air un peu perdu, que tu sais, t'as quand même une base intéressante, là, comme je mentionnais tantôt, c'est sûr qu'il y a un gros manque de profondeur, t'as quelques contrats pesants comme Lucic et compagnie qui t'agacent, t'as fait des transactions horribles, horribles, horribles. Je pense que celle de Spooner versus Strom la semaine passée, c'était, les gens ont tous fait le même calcul en se disant finalement on a eu Spooner pour Jordan Eberle. On a pris de très mauvaises décisions.
Non, donc, Spooner contre Ryan Strom.
Ben oui, mais tu le fais Spooner pour Strome, mais en fait, t'as donné Eberle pour Strome. Fait qu'en okay. bout de ligne,
ouais,
t'en reviens presque au même.
Oui, je comprends, oui.
Fait que là, tu sais, tu te dis, bon, est-ce qu'un système de jeu peut t'aider, sûr et certain? Ouais. Je pense que c'est la base de l'équation. De quelle façon les joueurs vont répondre? T'sais, un congédiement, là, c'est habituellement, il y a toujours un électrochoc parce que tout le monde veut dire au nouveau coach, hey, moi, je jouais 12 minutes, je mérite d'en jouer 17. Puis, tu sais, c'est la même chose pour le gars qui en jouait 6, qui en veut 11. C'est la même chose pour tout le monde. Puis, à un moment donné, Dan, je trouve qu'avec les Oilers, moi, Todd McLellan, c'est un gars que j'apprécie dans sa façon de faire les choses. T'sais, c'est un gars qui a l'air sympathique. C'est un gars, je pense, qui est très apprécié de ses joueurs. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce que c'était lui qui était vraiment la cause du problème ou est-ce que c'est une équipe qui est bourrée de trous exact. Avec le meilleur joueur de la planète?
Oui.
Je pense qu'on va avoir une partie de notre réponse dans les prochaines semaines.
Oui.
Mais ce qui a fait, ben, je dirais pas ce qui a fait mal à McLellan, mais ce qui a mis beaucoup de pression, c'est qu'il y a 2 ans, on a perdu en deuxième ronde au 7e match, ma mémoire est bonne, contre les Ducks d'Anaheim.
Oui. Oui.
Puis à partir de là, les gens disent, ben, écoute, on s'en va juste en s'améliorant. On est à un pas d'atteindre la finale de la conférence, peut-être la finale de la Coupe Stanley. Puis au contraire, après ça, ça a été la débandade, quelques mauvaises décisions, quelques joueurs qui n'ont pas performé à la hauteur des attentes. Puis finalement, tu te rends compte que cette équipe-là, malgré le fait qu'on a été très chanceux avec la loterie, on n'a pas toujours pris des bonnes décisions. Puis, tu sais, est-ce que le plus bel exemple qu'on peut se donner, Dan, c'est est-ce que le jeune Puljujärvi, est-ce que lui, avec Hitchcock qui arrive, pourrait sortir de sa coquille? Tu te dis, ben, en principe, non, parce que c'est pas le bon genre de coach
non,
pour un jeune joueur de même. Mais un changement de coach, puis un changement d'air, puis tout ça, on sait pas ce qui peut arriver, mais écoute, ça peut pas aller plus mal avec le meilleur joueur de la planète. Il fallait faire un changement, mais comme on se disait tantôt, je pense que le prochain changement est assurément au deuxième étage, ça s'en vient, mais le problème, c'est que le mal va être déjà fait pour cette organisation-là.
OK, hier soir, Alexander Ovechkin a applaudi Carey Price en fin de match. Je trouve que dans le monde du sport, un domaine que toi et moi, on adore, pour les histoires autant négatives que positives, je trouve que il y a des gens qui se sont mis à faire beaucoup d'argent puis qui ont perdu les émotions. Hier, quand j'ai vu Ovechkin applaudir Price, on parle de deux gars qui gagnent autour de 10 millions par saison. J'ai jamais pensé que ces deux gars-là gagnaient 10 millions par saison. J'ai eu une pensée pour des gars qui jouent au hockey dans la rue. Et ça, ce genre d'émotion-là, il y en a pas assez dans le monde du sport en général.
Okay. C'est intéressant parce que quand j'ai vu ça hier, ça m'a fait penser à John Tortorella. Parce qu'il y a environ 2 ou 3 semaines, John Tortorella a dit, il n'y a plus assez d'animosité. Tu sais, il y a trop d'amis maintenant dans le monde du sport. Puis c'est plus la même. Tu sais, les joueurs ne se détestent plus comme c'était le cas à une certaine époque. Puis tu sais, je comprenais ce que John Tortorella voulait dire. Mais je pense que, tu sais, rendu en 2018, presque 2019, les choses ont vraiment changé. Puis tu sais, ce qu'on a vu hier, tu peux être un très bon compétiteur, tu peux être le gars qui va se défoncer puis qui va, tu sais, défoncer des bandes pour essayer de gagner, mais en restant quand même un bon joueur, un bon coéquipier, puis même un bon adversaire. Puis je pense que, dans le cas d'Ovechkin, c'est un joueur que les gens apprécient pour son talent. Il va, écoute, je sais pas si un jour il va battre les 894 buts de Wayne Gretzky, mais il sera pas loin. Puis c'est un gars qui a toujours continué à s'amuser, que les gens apprécié.
Oui.
Puis je pense que c'est un gars, on l'avait vu dans les matchs des étoiles, les concours d'habileté, comment c'est un gars qui était apprécié. Mais tu comprends aussi pourquoi ce gars-là a été nommé capitaine des Capitals de Washington. C'est un gars qui a l'air rassembleur, qui s'amuse. Puis hier, tu sais, ça donne rien d'aller casser ton bâton sur le
mais
but.
Non.
C'est un bel arrêt.
Non.
Les deux se donnent une petite tape avec un beau sourire. Ça a été un spectacle de très grande qualité. Puis j'ai pas dit ça souvent du Canadien dans les dernières années, mais hier, ça a été un très bon show. Puis j'ai trouvé moi aussi que c'était un beau geste. Puis ça ajoutait à la magie du moment, puis de l'arrêt, puis du fait qu'il restait quoi, 0.3 secondes quand il a fait cet arrêt spectaculaire.
François, qu'est-ce qui va arriver avec... qu'est-ce qui va arriver, je recommence ma question, désolé. Est-ce que, en date d'aujourd'hui, si t'étais le DG des Leafs, tu échangerais William Nylander?
Faut que tu y penses sérieusement. Parce qu'il faut rappeler que s'il se passe rien d'ici le 1er décembre, il ne jouera pas dans la Ligue nationale cette année.
Exact.
Donc là, ça te laisse quand même encore un petit peu de temps. Mais je pense que oui, il faut que tu y réfléchisses sérieusement. Parce que moi, l'inquiétude que j'ai pour les Maple Leafs, puis même si la direction a dit des choses différentes, on va avoir des problèmes d'argent à un moment donné là, au niveau du plafond salarial. Le fait que, tu sais, John Tavares, on y a pensé, mais je suis pas sûr qu'on était convaincus dans nos plans qu'elle allait aboutir à Toronto puis qu'elle allait coûter quand même assez cher. Puis je pense pas que les Leafs regrettent cette décision-là. C'en est une excellente. Puis c'est un gars qui a des très belles années devant lui. Mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde passe à la caisse, là, que ce soit Marner, que ce soit Matthews et compagnie. T'as déjà quelques gros contrats. Puis là, après ça, ben avec tes défenseurs, avec Riley, avec Gardiner, puis tout ce monde-là, écoute, ça commence à faire pas mal d'argent. Donc je pense qu'il faut sincèrement que tu y penses. Mais il faut que tu fasses attention à ce que tu vas faire. Dans le sens où, moi, je pense que si les Maple Leafs veulent échanger Nylander, c'est définitivement en défensive qu'il faut que tu t'améliores. Mais ce qu'il faut que tu évites, c'est une espèce de Taylor Hall, Adam Larson, ouais. De dire que, tu sais, on va chercher un bon joueur qu'on a besoin. On va payer plus, c'est pas grave, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Je pense que c'est là où il faut faire très attention du côté des Maple Leafs. Je pense qu'il y a de l'intérêt, de la façon dont on parle à travers la Ligue. Tu sais, on s'est informé de ce que les équipes étaient prêtes à donner pour un gars comme Nylander. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre une décision parce que on a beau dire que les Leafs sont jeunes puis qu'ils ont des belles années devant eux. On dit souvent la fenêtre d'opportunité, elle est très, très courte souvent. Puis surtout pour une équipe qui a perdu en première ronde les deux dernières années, il commence à y avoir de la pression. Donc, ça va te prendre un Nylander ou un équivalent ailleurs dans ta formation si tu veux avoir la meilleure équipe possible. Je pense qu'il faut y penser sérieusement à le transiger. Si on peut faire une transaction qui nous plaît, qui nous aide, puis qui fait en sorte qu'on ne le regrettera pas l'an prochain, pas aller chercher un gars en fin de carrière ou un agent libre en devenir, je pense que c'est certainement quelque chose qu'il faut envisager chez les Maple Leafs de Toronto d'échanger William Nylander.
François, je regardais jouer les Leafs hier. Ils sont privés, évidemment, de Nylander. On vient d'en parler, de Matthews depuis un mois. Puis je regardais jouer Mitch Marner hier, puis je suis maintenant, depuis aujourd'hui, le porte-parole de Mitch Marner. J'aimerais que dans ta gang de chums à Pont-Rouge, à chaque fois que vous allez parler des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, tu insères le nom de Mitch Marner. Je vais faire la même chose avec ma gang de chums. Les auditeurs qui écoutent l'avant-match vont faire ça aux quatre coins de la région. Puis dans un an, quand on va parler du meilleur joueur de la Ligue, sans dire qu'il patine plus vite puis il est meilleur que McDavid, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce gars-là a un QI de hockey comme peu de joueurs ont. Et Mitch Marner n'est pas reconnu en date d'aujourd'hui à sa juste valeur.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le placer. Tu sais, dans une discussion, on parle de meilleur joueur de la Ligue. Je suis pas mal sûr que dans tous les pôles que tu as fait, il est probablement sorti entre 10 et 15. Tu sais, Marner, il sort pas dans les 10 premiers. Matthews puis Tavares sont sortis avant lui à Toronto. Je pense que c'est normal aussi, dans le sens où Matthews a un impact qui est indéniable dans sa façon de jouer, dans sa production. Tavares, c'est un gars qui est établi. Mais écoute, Marner, il grandit à quoi? 28 points cette année?
28 en 21.
C'est un gars qui a des mains magiques, puis t'as parlé de QI, puis ça, je trouve ça important parce que je regarde aller un gars comme Peterson à Vancouver, là, puis c'est ça le bon terme pour expliquer le talent de ces joueurs-là, puis Marner est dans cette catégorie-là. Tu sais, t'as beau dire, il y a des bonnes mains, c'est un bon joueur, c'est le QI hockey. Tu sais, de faire des choses que 2% des joueurs de la Ligue nationale vont être capables de faire, vont penser à faire une petite passe au lieu de lancer. Écoute, Marner, c'est un joueur qui est fantastique. Je pense que plusieurs ont craint qu'il était peut-être pas assez gros, que c'est un joueur en finesse. Puis je veux pas faire de mauvais parallèles, mais tu sais, ce que Jonathan Drouin est aujourd'hui, c'est un très bon joueur de hockey, mais c'est pas Mitch Marner, on s'entend. Mais non. C'est deux joueurs qui se ressemblent dans le sens où tu peux avoir des très bonnes mains, mais il faut que tu t'impliques dans le jeu, il faut que tu t'impliques dans le trafic, il faut que tu sois capable de faire un petit peu tout sur la patinoire. Puis je pense que pour Drouin, regarder un gars comme Mitch Marner serait certainement un très bel exemple parce qu'il peut faire tout sur une patinoire. Puis Marner, écoute, il fallait jouer sur le premier, deuxième trio, avec n'importe qui. Non seulement il va bien jouer, mais il va mieux faire paraître les autres. Puis je suis d'accord avec toi qu'il fait partie de la crème, qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, est-ce qu'il est le 7e, le 12e meilleur joueur de la Ligue nationale? Ça, c'est une discussion qui aura jamais de fin. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un négligé quand on parle des meilleurs joueurs. Puis dans les QI hockey, là, c'est vraiment dans la crème de la Ligue nationale de hockey.
Parfait. Merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
François Paquette, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match. Si vous êtes allé vous coucher,